France Culture organise ce samedi une seconde journée des forums France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Cette fois-ci, ce forum est intitulé « Sexe et pouvoir, le tout au pluriel ». Une journée animée par les producteurs de France Culture pour questionner les relations hommes-femmes, les rapports de domination comme de séduction qui suscitent aujourd'hui d'intenses débats d'opinion dans l'espace public. Et ce matin, on va parler des rapports entre sexe et religion avec nos deux invités que je vous présente. Siem Abchi, bonjour. Vous êtes présidente du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, ancienne présidente de l'association Ni pute ni soumise. Jean-François Colosimo, bonjour. Vous êtes historien des religions et éditeur. Vous êtes notamment l'auteur des Hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient, paru chez Fayard. Et tout récemment, d'aveuglement, religion, guerre et civilisation, publié aux éditions du CERF que vous dirigez par ailleurs. Et puisqu'on parle d'édition, eh bien, on va entendre Michel Foucault, puisque justement, paraît cette semaine Les aveux de la chair, le tome 4 de son histoire de la sexualité.
En fait, je dirais que la sexualité a été inventée. Est-ce qu'elle est vraiment ce qui nous appartient en quelque sorte par nature? Est-ce que ce n'est pas l'effet d'une sorte de sexualisation générale de l'être humain, du comportement humain, du discours que l'homme tient sur lui-même, du rapport que l'individu a sur lui-même? Est-ce que ce n'est pas l'effet de tout cela? C'est-à-dire de tout un énorme mécanisme d'assujettissement. Enfin, il ne faut pas oublier que dans les sociétés chrétiennes, depuis le fond du Moyen-Âge, depuis le milieu en tout cas du Moyen-Âge, on a obligé les gens non seulement à se confesser, à avouer tous leurs péchés, mais également à s'examiner eux-mêmes et à retrouver toujours la fameuse concupiscence, comme on disait, au principe de tous les péchés. La sexualité, c'est devenu notre vérité. Si bien qu'on peut dire qu'à partir du plaisir, on a bâti cet énorme édifice de la sexualité comme principe d'intelligibilité de tout notre comportement et de tout notre être.
La voix de Michel Foucault, et nous sommes au cœur de notre sujet, ce lien étroit, complexe entre la sexualité et la religion. Un commentaire sur ce que l'on vient d'entendre, Jean-François Colosimo.
Ce n'est pas porter du tout atteinte au génie de Michel Foucault de dire que, évidemment, il y a le grand exercice littéraire, philosophique, il y a l'archéologie du savoir, il y a la déconstruction, mais aujourd'hui, beaucoup de, malgré toutes ces visions historiques sur la folie, pas que sur la sexualité, sont largement contestés par les historiens pour être en quelque sorte tout de même un tout petit peu mécanique, n'est-ce pas?
Peut-être un peu mécanique, mais alors au moins reconnaître à Foucault ce lien qu'il fait entre le contrôle, l'autocontrôle et la religion. Alors là, on peut reconnaître que ce lien est devenu presque aujourd'hui évident, en partie grâce à lui, Jean-François Colosimo.
Moi, je crois pas. Je pense que, si vous voulez, quand on regarde ce lien entre, par exemple, l'apport de la confession, la religion des aveux, en quelque sorte, n'est-ce pas? Évidemment, on peut en voir le côté totalement juridique. Et vous savez qu'en France, la justice reste en quelque sorte, entre guillemets, inquisitoriale. Vous voyez, donc il y a toujours des liens très profonds, évidemment, face aux constitutions théologiques. D'ailleurs, l'époque dans laquelle nous vivons, elle est peut-être marquée de plus de théomorphisme que la Bible elle-même ne comprend d'anthropomorphisme, n'est-ce
pas ?
C'est-à-dire qu'en fait, la sécularisation, c'est véritablement très souvent la mise en forme laïcisée de principes théologiques.
Alors, c'est justement...
Et cette mutation-là, évidemment, elle est très intéressante, mais sur la sexualité, je dirais, blâmer un christianisme totalement répressif, je crois que c'est quand même une assez grave erreur, et c'est parfois confondre, par exemple, la culture médiévale, qui est beaucoup plus ouverte sur ces questions qu'on ne pourrait croire, avec la grande culture bourgeoise 19e, justement au moment où commence à s'opérer la déchristianisation, vous voyez ? Donc il y a un puritanisme, par exemple, tout à fait bourgeois, et qui là correspond à une véritable entreprise de contrôle que vous trouverez difficilement au Moyen-Âge, ou pensez d'ailleurs sous le règne de Louis XIV. Évidemment, toute proportion faite du fait que, dans ce type de société traditionnelle, les classes supérieures profitent davantage que n'ont pas les classes inférieures, c'est clair. Mais cela dit, vous pourrez pas dire que, voyez, Versailles, c'est pas tout à fait quand même l'apothéose du puritanisme, excusez-moi.
Non, mais en fait, on pourrait viser l'ensemble des religions, pas seulement le christianisme, autrement dit le judaïsme et également l'islam, et plus particulièrement d'ailleurs dans la manière dont ces trois religions s'imposent au corps des femmes. Siem Abchi, votre réaction à ce sujet?
La religion reste aujourd'hui, alors on va dire les religions, puisque c'est vrai que souvent quand on dit la religion, on ne sait pas de laquelle on veut parler, que ce soit l'hindouisme, le christianisme, le judaïsme, bon bref, toutes ces religions judéo-chrétiennes et l'islam, ça range encore du patriarcat pour dominer et contrôler le corps des femmes. Évidemment, il y a des évolutions et depuis notamment le deuxième sexe, qui a été le premier travail réel d'anthropologie qui ne s'enferme pas ni dans l'analyse de la domination liée à la religion, mais aussi de l'anthropologie de toutes ces femmes de milieux différents, en essayant de comprendre quelle est cette aliénation. Et en mettant au cœur aussi la responsabilité des femmes dans cette complicité, participation et la place de l'homme évidemment et du patriarcat dans tout cela. Donc évidemment, je pense qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas sortis et il faudra trouver un nouvel élan pour redonner aux femmes toute leur sexualité.
Jean-François, alors moi je voulais juste, bien sûr, j'ai pas de problème. Avec ça, il y a quand même deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas penser que les monothéismes, parce qu'il y aurait une image de Dieu le Père, seraient des religions plus oppressives pour les femmes ou pour les sexualités. Je veux dire, par là, on le voit aujourd'hui, on en a fini avec un peu des visions béates et idiotes. On voit bien qu'aujourd'hui, les bouddhistes savent aussi réprimer les musulmans en Asie du Sud-Est. Et les hindouistes, aujourd'hui, il y a un parti au pouvoir qui est un parti d'exclusion radicale de tout ce qui n'est pas sa représentation. Mais sa représentation, c'est une représentation reconstruite. Alors, regardons. Pardon, juste sur le statut des femmes, je ne parle pas boutique, je pense quand même qu'il y a une légère exception chrétienne. Regardez, au Moyen-Âge, on va me dire encore, bien sûr, ce sont des figures exemplaires, mais l'histoire, elle se fait partir des gens qui sont sortis du lot. On parle beaucoup de Hildegard de Bingen, on parle beaucoup de Mechthild de Magdebourg, Catherine de Sienne, elle fait plier un pape, c'est une analphabète, puisqu'on sait qu'elle dictait ses textes, donc elle ne savait pas écrire. Et regardez un phénomène très intéressant, c'est là où il faut être un peu complexe. Toutes ces gamines de Bretagne, de Corrèze, de Lorraine, qui sont parties dans les mouvements missionnaires. C'était pour ces femmes une grande aventure. C'était l'aventure que leur proposait leur siècle. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Mais c'est une manière d'échapper au patriarcat. C'était une manière d'échapper au mariage obligé. C'était une manière d'avoir d'un coup une éducation et de porter des responsabilités. Les mouvements monastiques, paradoxalement, je le dis encore, je ne dis pas que ça soit la panacée, ils n'étaient pas faits pour ça, mais ont permis aussi, par exemple dans le christianisme, aux femmes d'exister dans une forme de relative autonomie dans des siècles qui étaient sans autonomie.
On entend votre défense de la religion et ses vertus.
Non, je dis la complexité. La complexité.
Si Emma Pchi, vous êtes d'accord avec ça?
Il y a eu, évidemment, il y a des femmes exceptionnelles qui ont traversé ces siècles dominés par la religion, aussi bien par le christianisme que par le judaïsme, ou par l'hindouisme notamment, et en islam. Mais ce qui nous a manqué, ce que dit Simone de Beauvoir, c'est l'histoire des femmes. Il faut attendre 73 en France pour qu'il y ait véritablement à Jussieu un débat sur est-ce qu'on peut raconter l'histoire des femmes. Et quand on regarde notamment, je regarde moi sur ce qui m'a forgé, notamment en regardant l'Afrique du Nord et le monde dit arabo-musulman, je m'interroge et je cherche par moi-même, et donc aller vers ce savoir de l'histoire de ces femmes qui ont su s'opposer au patriarcat, à la domination masculine et aux religieux en utilisant les ressources de l'époque, évidemment les textes, voilà, mais en faisant ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire en réinterprétant les textes et en allant plus loin.
Oui, parce que Jean-François Colosimo, malgré tout, on pourrait vous rétorquer qu'au-delà donc de ces destins exceptionnels que vous évoquiez, il y avait la masse.
Je parle aussi des destins de masse. Les missionnaires français.
Je l'ai entendu.
Les missionnaires français, ce sont des dizaines de milliers de gamines de village.
À l'origine, lorsqu'on a affaire à l'encadrement pastoral, à ce phénomène qu'étudie justement Foucault à la naissance de la confession. Donc, bref, on est à une époque évidemment très éloignée. Cela commence au XIIe ou XIIIe siècle. Pour la religion chrétienne, on a plutôt tendance à réussir à contrôler les corps et à les contrôler de très près. Et donc là, on a affaire à un phénomène qui est plutôt le renoncement à la chair. Le renoncement à la chair pour les femmes, notamment.
Oui, si ce n'est, si vous voulez, que là aussi l'histoire... Je suis désolé, là vous me mettez dans une position d'avocat permanent, mais moi j'essaie d'apporter de la complexité. La clé de la confession, ça n'est pas l'aveu, c'est le problème de la capacité du pardon dans une société aussi. N'est-ce pas ? Donc, et de ce point de vue-là, c'est vrai que le christianisme, c'est la religion par excellence du pardon. Au passage, c'est d'ailleurs la religion du pardon qu'on peut taper dessus, je dirais, avec plus d'impunité que sur d'autres, très souvent. Hein. Et qu'on se permet avec le christianisme des choses qu'on ne se permettrait pas avec des religions où le pardon est moins central. Donc, évidemment, les opérations de contrôle social, la traduction, si vous voulez, des principes anthropologiques, théologiques, on peut contester, il n'y a aucun problème là-dessus, dans le contrôle social, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir de, la Renaissance, c'est moins l'Église qui l'exerce que l'État. Voyez ? Et rappelez-vous la chasse aux sorcières du 16e au 17e siècle, qui frappe les femmes. Hein, on ne dit pas la chasse aux sorciers, c'est la chasse aux sorcières. Cette espèce de diabolisation de la féminisation. Mais ce sont les États qui l'exercent, ce n'est pas l'Église. Il y a des centaines de milliers de victimes en un siècle sur toute l'Europe. Et l'État veut chasser l'irrationalité. L'irrationalité dont d'un coup la femme est le signe, parce qu'effectivement elle est le signe du désir, de la sexualité, elle est le signe de la tentation. Mais ce sont les États. Et vous savez quels États font ça ? Pas les États catholiques, ce sont principalement les États protestants.
Alors, justement, puisqu'il s'agit donc d'États, selon vous, Jean-François Colosimo, est-ce qu'on ne peut pas également faire ce même parallèle avec l'islam Siem Hapchi et se dire que finalement, ce sont les formes étatiques, quelles qu'elles soient, avec là aussi d'importantes nuances, qui vont imposer aux femmes, en pays musulmans, un certain nombre de contraintes beaucoup plus dures, finalement, que celles auxquelles on assistait il y a 50 ans.
Non, mais là, évidemment, quand on parle de religion, il faut poser la question de l'État et de la structuration de l'État et donc de la laïcité ou de la sécularisation et donc de la démocratie. Vous citiez Foucault tout à l'heure, on entendait Foucault. Foucault a clairement soutenu la révolution islamique d'Iran et il n'y a pas le prisme de, par exemple, la question des femmes et du corps des femmes ne l'a pas beaucoup intéressé.
Pourtant, est-ce qu'il était plus clair que ça à l'époque ?
Il n'était pas clair, mais il y a une démarche quand même. Vous savez, c'est le temps où les intellectuels se déplaçaient et portaient des idées, et des idées aussi, un engagement politique.
Il a été fasciné. Moi,
sa fascination est indéniable, mais est-ce qu'à l'époque, on pouvait imaginer que les mollahs en Iran allaient imposer ces règles-là ?
En tout cas, le nombre de personnes qui ont été mises en prison, les communistes qui ont été torturés, les femmes qui ont été pendues, bon bref, les exactions, elles étaient déjà présentes. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, il faut regarder la manière dont là, aujourd'hui, dans ces États, effectivement, sous couvert d'une instrumentalisation du religieux, on assoit une domination, effectivement, du corps des femmes, de sa sexualité, donc il y a le corps, il y a la sexualité, mais aussi de tous ses désirs. Et c'est comme si on amputait toute une partie de la société d'une possibilité. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que ces femmes, aujourd'hui, elles sont aux avant-postes d'un combat déterminant pour revenir à l'Iran. Ces femmes, aujourd'hui, qui manifestent avec ces performances, hein, c'est comme des performances, elles se mettent dans l'espace public avec un bâton et un voile au bout de ce bâton, silencieuse, pour manifester qu'on peut aussi débattre de la fin du voile. Peut-être qu'il peut disparaître de la structure,
on va dire,
de la structure de domination. Oui, comme il est apparu, de la structure de domination réglementée, autoritaire. Le corps des femmes est un enjeu déterminant pour tous ces États peu démocratiques. Et donc, je pense qu'il est intéressant aussi de glisser par là, parce qu'on ne peut pas non plus enfermer le débat de la sexualité uniquement dans le prisme du religieux.
Moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, religion, ça veut dire beaucoup de choses. Et il y a un comportement religieux du politique. On voit dans les enquêtes soulevées par Libération, excusez-moi de dire ça, mais les militantes piégées en quelque sorte de manière sexuelle, on est face à des comportements qui sont pas immédiatement religieux, mais qui sont en quelque sorte para-religieux, conviction, dévotion, prédation.
Je pense que vous faites référence à l'enquête
sur les jeunesses socialistes et jeunesses communistes.
Mais sur les jeunesses socialistes, on avait l'impression de lire pratiquement une sorte de contrôle sectaire.
Absolument. Donc c'est pour ce que je dis que religieux, si on prend la fonction religieuse et pas simplement le terme religion historique, on s'aperçoit que le phénomène est très large. Mais pour revenir sur Foucault, tout de même, aujourd'hui, il y a deux grands disciples de Foucault aux États-Unis, Assad et Mahmoud. S'ils sont très importants, on ne les lit pas en France,
Vous allez nous les présenter.
Non, mais je vais vous dire en deux mots. On ne les lit pas en France, c'est très important. Ce sont eux qui, en fait, je veux dire, comme il y a des post-cultural studies, comme il y a des gender studies, eux, ils appliquent ça à la religion. C'est elle et lui. Mahmoud, c'est une femme. Elle a, entre autres, fait une grande enquête sur des femmes salafistes d'Égypte, où elle explique que, en fait, le voile, il ne faut plus pas se demander ce que c'est, mais à quoi ça sert à ces femmes, et qu'en fait, c'est un levier d'émancipation. C'est tout à fait...
Ça, on l'a fait en France,
oui.
Non, mais là,
elle, elle le fait... Enfin, là, ce sont deux Foucauldiens. Ce sont eux qui représentent Foucault aux États-Unis. C'est pour ça que je parle d'eux. C'est la French Theory et sa victoire. Alors, juste pour finir là-dessus, mais qu'est-ce qu'ils disent ? De la même manière qu'ils disent qu'il faut bien comprendre pourquoi les musulmans peuvent être réfractaires à ce que nous, on appelle le blasphème, n'est-ce pas ? Donc, on rentre aussi dans un grand relativisme. Michel Foucault, c'était en même temps, je dirais, la culture californienne, et je dirais les bars de nuit californiens, et c'était en même temps l'exaltation des madrassas, parce que tout ce qui pour lui déconstruisait, détricotait les représentations modernes, présentait une forme d'égalité en quelque sorte. Et là il y a un piège, et je crois que je serais tout à fait d'accord avec vous pour dire que ce piège, c'est que le résultat pour les femmes n'est pas tout à fait le même.
Le piège, et pour revenir à la question du harcèlement, c'est d'avoir pensé que l'égalité, si elle reculait à un endroit, c'était pas grave. Et donc, pour revenir à la question des quartiers populaires, pour lesquels je me suis engagée pendant des années, on n'a pas voulu entendre la dimension, voire du recul du droit des femmes dans l'espace public à leur sexualité dans des territoires. Alors, grand tabou, il ne faut pas en parler politiquement correct.
Quand vous on aviez fait du le mal, lien, vous, à en parler?
Moi, j'avais aucun problème à en parler, puisque nous avons...
Votre parole n'était pas...
En tout cas, elle a été entendue après la mort malheureuse de Sohan Beziane. Si vous voulez, fais le lien.
Donc, il faut rappeler l'histoire très rapidement.
Qui est morte brûlée en 2003, après avoir refusé les avances d'un jeune garçon. Donc, cette question du harcèlement, elle est encore très présente. Et il ne faut pas séparer l'histoire de ces femmes et la vie de ces femmes, qu'elles soient dans les quartiers populaires ou à la tête du MJS.
Siam Abchi, on vous retrouve aux environs de 8h20 en compagnie de Jean-François Colosimo. Aveuglement, religion, guerre, civilisation, c'est le livre Jean-François Colosimo que vous publiez aux éditions du Cerf.